Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on vous parle donc de la dernière des révolutions françaises. La Commune de Paris, dont on commémore aujourd'hui les 150 ans, 72 jours de révolte populaire, tragique, 18 mars, 28 mai 1871, qui s'est achevée dans un bain de sang. Alors 150 ans après, que reste-t-il de la Commune? Quel en est son héritage? On en parle donc ce soir avec nos invités. Bonsoir Michel Vinocq. Vous êtes historien, auteur de Les Communards aux éditions Perrin, qui est sorti, je crois, il y a quelques jours.
Avec Jean-Pierre Azéma.
Avec Jean-Pierre Azéma.
C'est un livre qui date de 1970, donc qui a été réimprimé à l'occasion.
Ludivine Bantini est également avec nous. Bonsoir, vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen, historienne, auteur de La Commune au présent, une correspondance au-delà le temps, aux éditions de La Découverte. On est également avec Romain Genticou. Bonsoir, vous êtes grand reporter à Télérama, Télérama qui a d'ailleurs sorti un dossier absolument passionnant sur la Commune, paru mercredi dernier, intitulé « 150 ans après la Commune de Paris, l'utopie prend un coup de jeune », on en parlera. Alors rappelons d'abord peut-être le point de départ de cette révolution, c'est la capture de Napoléon III par l'armée prussienne, 1870. La France est alors humiliée, le gouvernement d'Adolphe Thiers, majoritairement monarchiste, s'installe à Versailles. Mais à Paris, Michel Vinocq, c'est la révolte. La ville est alors assiégée, ça va durer 72 jours et se terminer dans un bain de sang. Est-ce que j'ai bien résumé?
Rapidement, mais c'est vrai. Benoît Malon, qui est un des communards, a écrit un livre qui s'appelle « La troisième défaite du prolétariat français ». La première, c'était la révolte des Canuts en 1832. La deuxième, la révolte des ouvriers des ateliers nationaux menacés d'être fermés en 1848. Et la troisième, la Commune. Mais la grande différence, c'est que les deux premières grandes révoltes étaient justement des révoltes. Et là, vous avez prononcé le mot, c'est une révolution. Pourquoi? Parce que pour la première fois, vous avez une révolte qui arrive à former un gouvernement, qui a une armée, qui va légiférer et qui pendant 72 jours, par conséquent, va défier le gouvernement monarchiste qui est au pouvoir. Et ça, c'est une nouveauté. Et c'est ça qui est très important. Oui. Et qui explique j'allais citer un auteur qui s'appelle Georges Bernanos, qui a écrit un livre en 1935 qui s'appelle « La grande peur des bien-pensants ». Alors, et la Commune a fait peur, et ça va durer.
Et on va en parler. Victor Hugo, puisque vous parlez d'auteur, a baptisé cette année d'ailleurs « L'année terrible ». C'est ce qu'avait écrit Victor Hugo. Alors il y avait tout de même, Ludivine Bantini, un idéal derrière cette révolte de la Commune. L'idéal d'une démocratie directe qui donnera naissance au communalisme. C'est l'essor du socialisme un peu avant l'heure et de la problématique prolétarienne. Est-ce que vous diriez que c'est le prolongement de l'idéal des Lumières, en quelque sorte ?
L'idéal des Lumières, en tout cas dans la perspective émancipatrice. C'est quelque chose qui me semble très important de souligner. C'est une révolution populaire, la Commune de Paris.
Une utopie ?
Une utopie réalisée. Une utopie. Oui. Louise Michel, par exemple, se saisissait du mot utopie en disant
féministe
que...
Féministe avant l'heure, grande figure de la Commune.
Libertaire, anarchiste, en effet, qui défendait aussi l'émancipation et l'affranchissement des femmes, l'affranchissement du prolétariat, l'affranchissement du monde ouvrier par rapport au capital. Ça, c'est quelque chose qui était aussi très présent sous la Commune. Louise Michel disait, mais oui, mais ce qui paraissait utopique au temps de l'esclavage, au temps des beffrois du Moyen-Âge, c'est réalisé. Et donc, oui, une utopie mise en œuvre, une utopie mise en pratique par une démocratie vraie. Toute une réflexion et une mise en œuvre d'une démocratie au plus près de celles et ceux qui vivent dans les quartiers, sur les lieux de travail, etc.
D'ailleurs, c'est intéressant de relever, Michel Vinocq, le rôle qui a été celui des femmes à l'époque. Parce qu'on met beaucoup en avant Louise Michel, mais il y a eu, je crois, des centaines de femmes qui ont pris part aux barricades.
Absolument.
Alors, les monarchistes disaient à l'époque, c'est elles qui allument les feux dans
les
tout
pétroleuses.
Paris. Les pétroleuses, voilà. Mais elles avaient un rôle beaucoup plus important, en réalité.
Certainement. Alors, évidemment, elles ne sont pas éligibles. Et les communards n'ont rien fait pour les rendre éligibles. Mais, en dehors de cela, elles ont été du début à la fin présentes et combattantes. Le 18 mars, lorsque Thiers veut récupérer les canons et qu'il envoie l'armée sur la butte Montmartre,
oui, c'est la semaine sanglante, on en parlera.
Non, au début. N'est-ce
ah
pas
oui, lorsque, oui, le 18 mars.
Voilà,
le 18
lorsqu'il
mars,
veut
pardon.
Récupérer les canons, au petit matin, ils n'ont pas terminé. Et ces soldats se trouvent littéralement entourés par qui ? Surtout par des femmes qui se sont levées avant leurs hommes, par des enfants qui vont leur apporter à manger, à boire, oui. fraterniser avec eux, et qui vont faire échouer. Ensuite, on les voit partout.
Oui.
On les voit également, alors non seulement dans les dispensaires, comme ambulancières, etc., mais aussi comme combattantes. Mmh. On les voit sur les barricades. Et vous avez des noms, il n'y a pas que Louise Michel, mais vous avez aussi d'autres femmes remarquables,
oui.
Notamment Paul Minck, vous avez Elisabeth Dimitrieff, qui est une Russe d'ailleurs. Petite parenthèse, la commune a été aussi très internationale.
On en parlera, c'est un aspect intéressant de cette révolution. Vous évoquiez effectivement le 18 mars 71, pour que chacun ait en tête cette date importante, c'est l'affaire des canons. Effectivement, Adolphe Thiers, chef du gouvernement, envoie des troupes récupérer canons et mitrailleuses qui sont sur la butte Montmartre, en possession des Parisiens. Et les Parisiens croient alors à un coup d'État monarchiste, et c'est l'insurrection. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Romain Genticou, vous qui avez travaillé comme reporter sur ce dossier ?
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment cet événement qui a duré finalement si peu de temps, qui a été
72 jours,
150 ans après, irrigue encore les imaginaires, je dirais même irrigue plus qu'il y a 20 ans, par exemple,
oui.
les imaginaires. Comment des milieux très différents, à la fois en France mais aussi à l'étranger, s'emparent de l'imaginaire de la commune, des idées de la commune, et essayent de les faire leur.
Alors on en parlera justement de ces idées de la commune et de cet héritage. À tout de suite, 19h27. La suite du débat du Club des idées, il est 19h30 et on continue donc ce soir de vous parler de la dernière des révolutions françaises, la Commune de Paris, dont on commémore aujourd'hui les 150 ans, enfin plus précisément demain exactement, puisque ça a commencé le 18 mars 1871 jusqu'au 28 mai 1871. Alors on est toujours avec nos invités, Michel Vinocq notamment, historien. J'évoquais, Michel Vinocq, l'idéal qu'il y avait derrière cette révolte de la Commune, parce que c'est vrai que l'Assemblée communale de Paris, qui a donc été aux affaires une cinquantaine de jours, en pleine guerre civile...
72 jours.
Mais ils ont pu activer une politique pendant un peu moins de 72 jours, le temps que ça se
oui,
mette en
bien
place.
Sûr, bien sûr.
C'est ce que je voulais dire. Et pendant ce laps de temps, l'Assemblée communale fait tout un tas de choses quand même, qui sont toujours présents aujourd'hui dans notre société. Elle remet par exemple en marche les administrations, comme la Poste. Elle paie les loyers des ouvriers qui ne peuvent pas payer leur loyer. Elle subventionne les boucheries municipales. Elle interdit le travail de nuit, par exemple, des boulangers. Elle proclame la séparation de l'Église et de l'État avant la loi de 1905, l'éducation gratuite aussi pour toutes et pour tous, avec des dispositifs d'ailleurs très modernes pour l'époque. L'attribution par exemple d'une pension aux veuves des gardes nationaux ou encore la création d'un corps mobile d'ambulanciers composé de médecins et de brancardiers. Ça peut paraître anecdotique, mais ça quand même enclenche une nouvelle société d'une certaine manière à l'époque.
Certainement. Il y a dans toutes les mesures que vous dites, et il y en a d'autres, une préfiguration de ce que fera le législateur républicain plus tard, bien plus tard. Bon, évidemment, l'école capitale, école obligatoire, gratuite, laïque. Il faudra attendre les lois Ferry, et bien plus, lois Ferry des années 1880, mais bien plus encore longtemps, en 1905,
oui.
donc la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc, il y a cela. Et il y a un certain nombre de lois sociales, vous les avez énumérées, il y en a d'autres, notamment la volonté de que les salaires des hommes et des femmes soient les mêmes. Mais il faut bien se rendre compte que le laps de temps de la commune est si court que ce ne peut être que des ébauches.
Oui.
Marx disait la commune n'a pas été socialiste et ne pouvait pas l'être.
Oui.
C'est pas le socialisme, il n'y a pas eu... d'appropriation, il n'y a pas eu de nationalisation, d'appropriation par la collectivité des moyens de production.
Mais c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, ça reste une révolte symbolique de la lutte prolétarienne pour la gauche. Alors vous évoquez Karl Marx, pour lui la Commune de Paris, disait-il, était la première révolution du prolétariat. Lénine écrivit à la mémoire de la Commune en 1911. La Commune est devenue une sorte de mythe pour le peuple de gauche
c'est
et les communistes. Aujourd'hui encore d'ailleurs, chez une certaine gauche, on célèbre Commune
oui,
de Paris.
Fait. Pas exactement comme ça. Parce que le mythe que vous dites, le mythe qui a été celui de Marx, Engels, qui a dit la commune, regardez la commune, c'était la dictature du prolétariat. C'est pas comme cela qu'on voit la commune. Je crois que la commune, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'idée de la démocratie directe.
Oui.
C'est-à-dire que on doit se gouverner soi-même, et d'une manière décentralisée, dans les quartiers, dans les rues. Et beaucoup d'initiatives ont été prises, non pas par l'hôtel de ville, où siégeait le conseil de la commune, mais bel et bien dans les quartiers, dans les clubs, autour des journaux. Vous voyez, cette idée, par conséquent... Alors, évidemment, il y avait un aspect négatif, c'était pour la guerre.
Oui.
La garde nationale, qui était surtout en démocratie directe, voulait élire et élisait ses officiers, et elle n'élisait pas forcément les plus compétents.
Alors, on va se remettre dans l'ambiance de l'époque. Ça n'est évidemment pas... les sons de l'époque, c'est une reconstitution, on va écouter ça. À nous les canons, disaient les communards à l'époque qui étaient montés sur les barricades. Écoutez ce bruit de fond, parce qu'il faut le rappeler, Ludivine Bantini, vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen, vous êtes évidemment historienne. Paris est assiégé, il n'y a plus de nourriture, c'est la crasse. C'est une ambiance très très particulière à l'époque dans les rues de Paris pendant ces 72 jours de révolte.
C'est-à-dire que le siège qui précède la Commune de Paris, le siège des Prussiens, est en effet décisif pour comprendre cette révolution populaire, puisque en fait, ce peuple de Paris a souffert beaucoup de la faim, de la misère, du chômage. Les gens n'ont pas d'ouvrage et se sentent en outre abandonnés par un gouvernement républicain qu'ils jugent de plus en plus bourgeois et coupé des intérêts populaires. Un gouvernement qu'il juge aussi traître finalement, puisque ce gouvernement s'apprête à capituler, et il le fera devant les Prussiens. Donc c'est
une sorte de démocratie qui s'organise,
oui.
Un peu de bout de ficelle, mais quand même avec des avancées, on vient d'en parler,
mais
dans un chaos innommable.
Mais c'est ça, ce qui est très fascinant, c'est justement combien la commune a avancé en termes de mesures sociales, alors même qu'elle n'avait pas d'argent. Que par exemple quelqu'un comme Jules Ferry, qui était maire de Paris, a fui Paris en emmenant une partie des caisses, en voulant couper le Paris de la Commune de ses ressources financières. Donc il n'y a pas d'argent. Pour autant, on essaie de, au-delà des mesures que vous avez citées à juste titre, on essaie d'organiser la vie autrement et le travail autrement, sur le biais de coopératives, de mutuelles, de solidarité populaire et ouvrière, de cantines populaires, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. L'idée, c'est de pouvoir s'auto-déterminer et s'auto-organiser, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social et économique.
Alors,
sur l'école, c'est aussi très important de le souligner, c'est pas la même école que celle que proposera Jules Ferry. C'est vraiment une école de l'émancipation des enfants qui croit, par exemple, en l'intelligence des enfants, en leur créativité, en leur esprit critique, en l'idée en fait, de l'égalité. Oui, en fait, on
en
peut dire que c'est ce qu'on appelle l'éducation intégrale, l'idée qu'il ne faut pas avoir d'un côté les enfants du peuple qui pratiquent les travaux manuels et de l'autre les élites qui pratiquent le travail intellectuel.
On va poursuivre le récit de l'histoire, puisqu'arrive la semaine sanglante des martyrs. Hein, c'est le 21 mai 1871. Romain Genticoux, vous êtes grand reporter à Télérama et vous avez sorti un dossier passionnant sur la commune. 60 000 soldats du gouvernement tiers rentrent dans Paris et c'est le début de la semaine sanglante. La répression contre les communards sera terrible. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a débat sur le nombre de victimes, je crois. Certains historiens, je parle sous votre contrôle aussi, Michel Vinocq, parlent de 6 à 7 000 victimes. D'autres disent 20 000, d'autres disent encore plus.
Oui, ça c'est un débat... qui a toujours lieu chez les historiens et historiennes, donc je me garderai bien d'intervenir en tant que journaliste. Mais effectivement, on évoquait la brièveté de la commune et ce massacre. C'est aussi ça qui a fait finalement la pérennité de ces idées, c'est-à-dire que la commune n'a pas eu le temps de décevoir, en fait. Elle avait un programme révolutionnaire, elle n'a quasiment pas eu le temps de l'appliquer, ce qui fait qu'elle n'a pas pu décevoir. Et donc ça ouvre un potentiel de possibilités énormes. Et donc ça enrichit des utopies politiques encore aujourd'hui.
D'où le symbole et l'héritage aujourd'hui. Michel Vinocq, en quelques secondes, c'est le 28 mai, je crois, que la dernière barricade tombe. C'est ça, la ville est reprise à ce moment-là.
Oui, le 28 mai, les derniers combats ont lieu au Père-Lachaise, d'où le mur des fédérés, ce mur devant lequel les derniers combattants de la commune ont été fusillés, évidemment, sans procès. la répression est terrible. Il faut savoir que, on a dit que les chiffres étaient incertains.
Oui.
Mais enfin, arrêtons-nous même à 10 000, si vous voulez.
Oui.
Clémenceau disait 30 000, d'autres disaient 20 000. Officiellement, longtemps, on a dit 17 000. Bon, maintenant, vous avez un historien anglais qui s'appelle Tombe qui dit non, il faut réduire tout ça à 7 000. Bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que entre les morts de la semaine sanglante appartenant à l'armée régulière et aux communards, aux fédérés, il y a le rapport de 1 à 10.
Oui, oui.
De 1 à 10.
La pression,
ça a été un terrible massacre.
Oui.
Dans les jardins du Luxembourg, au Père-Lachaise,
oui,
un peu partout, et avec une férocité terrible.
Alors, on verra dans quelques secondes pourquoi les commémorations autour de ces 150 ans divisent aujourd'hui, d'une certaine manière, la classe politique, avec toujours cette fracture entre plutôt la gauche d'un côté, qui célèbre, et plutôt la droite de l'autre. On se retrouve avec nos invités, 19h39, à tout de suite. 19h40, passé d'une minute, on poursuit le débat du Club des Idées. Ce soir, on continue donc à parler de la révolution de la Commune, dont on commémore aujourd'hui, je le disais, les 150 ans. On évoquait cette semaine sanglante et la répression qui s'en est suivie quand le gouvernement d'Adolphe Thiers et ses armées reprend Paris. Est-ce qu'on peut aussi parler d'une certaine manière, Ludivine Mantini, des crimes des communards? J'en parle parce que c'est aussi quelque chose qui est mis en avant,
oui,
y compris aujourd'hui d'ailleurs, par exemple à droite, où on dit voilà, les communards ont jeté en prison plus de 200 prêtres, certains ont été fusillés, dont l'archevêque au moment de l'assaut final sur Paris par les militaires. Et puis, y a la manière dont ils ont aussi incendié Paris. Sur la fin de cette
Je pense qu'il faut vraiment qu'on se représente ce qu'a été cette semaine sanglante. C'est-à-dire, dès les premiers jours, ce sont des charniers. C'est un massacre impitoyable, inimaginable. 10 000 morts, hein. Il y a encore un livre qui vient de sortir à ce sujet de Michel Audin, La semaine sanglante chez Libertalia, qui nous montre bien, elle compte les morts de cimetière en cimetière. 10 000 morts, ça veut dire en fait au moins un cadavre dans toutes les rues de la capitale, dans chaque rue de la capitale. Hein. Donc, en fait, il y a des otages. Les communeux et les communeuses avaient proposé à Thiers d'échanger les quelques 70 otages qu'il maintenait en prison contre un seul prisonnier politique, qui était le révolutionnaire Auguste Blanqui. Thiers a refusé. Thiers a refusé parce qu'il savait que c'était très bien pour lui, pour ses propres intérêts, d'avoir des martyrs. Et il faut bien souligner aussi que la commune comme telle, le conseil de la commune, n'a pas voulu faire appliquer le décret des otages. Ce n'est pas elle qui a décidé de l'exécution des otages. C'est essentiellement un des personnages de la commune, Théophile Ferré, qui en a décidé seul, qui occupait les fonctions de l'ex-préfet de police.
C'est un point de détail, pardon, mais parce que vous parlez de chasse aux sorcières, suite à la défaite des communards, j'ai vu une information comme ça en préparant cette émission assez inédite. C'est l'arrivée aussi de la photo. À l'époque, c'est les premières photos. Il y a eu une centaine de photos.
C'est pas l'arrivée de la photo. La photographie a été inventée
au sein des révolutions. Pardon, mais c'est la première fois qu'un conflit comme celui-ci.
Des photos sur le vif et des reconstitutions.
Et des reconstitutions. Mais là où je voulais en venir, Michel Vinoc, c'est que pour la première fois, la police, comme on le fait aujourd'hui, utilise les photos et visiblement perquisitionne les ateliers de photographes pour tenter d'identifier les communards et les retrouver et les juger. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui. Alors, franchement, moi, je ne sais pas. Vous me posez une colle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait la chasse aux communards d'une manière policière, effectivement. Certains, beaucoup même, ont réussi à s'exiler, à fuir. Bon. Ça a été le cas de Jules Vallès, ça a été le cas de certains communards assez importants. La traque s'est faite dans les maisons, dans les domiciles, chez les voisins, dans les commerces. Bon, on a arrêté près de 40 000 personnes. Bon. Il y a eu beaucoup de non-lieux, parce qu'on avait arrêté tout le monde. Il y a eu quand même plus de 12 000 condamnations. Condamnations, pour la plupart, à la déportation. Enfin, en tout cas, la moitié, à peu près 4 500, à la déportation en Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas, qui ont vécu, et ces déportés ont vécu on peut dire certains, un enfer.
C'était le cas de Louise Michel, je crois, qui a été déportée. Alors, Louise
Michel, absolument, a été déportée. Mais il y avait deux sortes de déportés. Les déportés, je dirais, lambda, et les condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Et vous avez un témoignage qui est terrible d'un ancien communard qui s'appelle Jean Alman, qui fondera plus tard un parti politique socialiste. Mémoire d'un communard où il raconte comment ces condamnés à perpétuité ont été torturés vraiment pendant, pendant près de 10 ans.
Est-ce qu'aujourd'hui, Romain Genticot, mon reporter à Télérama, est-ce qu'il faut commémorer, est-ce qu'il faut célébrer ces 150 ans de la Commune?
Alors, est-ce qu'il faut, c'est une question politique.
Votre regard d'observateur.
Moi je peux observer la manière dont, disons, ça divise.
Et
on a bien vu, par exemple, au Conseil municipal de Paris, les discussions qu'il y a eu pour savoir si la ville de Paris devait commémorer les 150 ans de la Commune. C'est normal, c'est encore une fois une question politique.
Et pourquoi Ludivine Bandigny, ça fait débat? On commémore bien, d'une certaine manière, la prise de la Bastille, le 14 juillet.
Tout à fait,
Est-ce qu'on a du mal à célébrer la Commune?
Et d'ailleurs, la Commune de Paris a été beaucoup moins violente sur le plan politique. Et justement, elle voulait à toute force récuser la violence.
Il y a peut-être une différence quand même. C'est que c'est un gouvernement républicain, démocratique, qui a été contesté au moment de la Commune, puisque c'est des parlementaires qui avaient été élus par le peuple.
Vous parlez de l'Assemblée.
Le gouvernement est monarchiste et l'Assemblée est majoritairement monarchiste. Mais c'est une Assemblée qui a été élue.
Bon, c'est ce qu'on a reproché à la Commune. À savoir qu'elle n'était pas démocratique à cause de ça. Mais n'oublions pas, bon, il y a plusieurs considérations. D'abord,
c'est un déni de démocratie, d'une certaine manière.
Oui, mais la Commune
s'est quand même sur des élections.
Voulu non pas imposer sa dictature... comme Lénine le fera avec le Parti communiste, il a procédé à des élections également.
Oui.
Et la ville de Paris a voté le 26 mars. Et la majorité a voté et a élu une commune. Alors,
vous seriez favorable, vous, Ludivine Mantini, pour poursuivre à célébrer ou à commémorer ces 150 ans de la Commune?
Je pense que c'est un événement très important, cette révolution populaire. D'ailleurs, il y a des associations dont l'une s'appelle Faisons vivre la Commune, qui va être très active à partir de demain, dans l'esprit aussi de retrouver justement ces formes de solidarité, ces interrogations sur la démocratie, sur le partage du travail, etc. Toutes ces questions d'émancipation qu'on a évoquées tout au long de ce débat. Et c'est, plutôt que de commémorer, moi c'est vraiment une formule que j'aime pas beaucoup, parce que commémorer, ça veut dire vraiment aussi embaumer, enterrer. Je pense que faire vivre des événements, en essayant de comprendre les actrices et les acteurs, les protagonistes, de retrouver leur histoire, les personnes connues, mais les beaucoup moins célèbres également, ce qu'ils espéraient, ce qu'ils ont mis en œuvre, ce qu'ils ont vraiment projeté, qui a changé la vie, comme le disait Rimbaud. Il le disait à propos de la Commune, changer la vie, des inventions d'inconnus. C'est ça qui est plus intéressant, me semble-t-il, que de célébrer comme un fétiche le passé. C'est vivre.
Une petite dernière question plus anecdotique, mais quand même, pour tous les Parisiens qui nous écoutent, et puis ceux qui visitent Paris, qui en ont une belle image, le Sacré-Cœur. Il avait été dit à une époque que le Sacré-Cœur de Montmartre avait eu vocation à expier les crimes de la Commune. C'est faux. Qui veut répondre? Romain Genticot ou Michel Vinac?
Le projet de la basilique du Sacré-Cœur est antérieur à la Commune, c'est vrai, puisque il a été pensé par un homme d'affaires qui s'appelait Le Gentil, patron d'un grand magasin, qui voulait expier, je dirais, l'immoralité du Second Empire qui venait de s'écrouler. Et il avait aussi une autre idée en tête, c'était un hommage au pape qui venait de perdre son pouvoir temporel en 1870. Et le pape, il est allé le voir en février 71, qui lui a donné son accord, et la Commune est due 18 mars. Donc le Sacré-Cœur n'a pas, au départ, n'est pas fait pour expier la Commune.
Bien.
Mais je dirais d'une phrase que la manière dont l'État, la République des Ducs, a décidé de bâtir cette basilique, c'est fait, dans un contexte de réaction politique qui explique que les anciens communards, que les républicains, la gauche républicaine, etc., aient bien vu dans l'édification du Sacré-Cœur une expiation de la commune.
Un symbole. Merci Michel Vinocq, merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion passionnante. Alors il y a un hors-série qui sort de l'histoire, les collections Michel Vinocq, qui s'appelle justement La Commune, le grand rêve de la démocratie directe. C'est à retrouver dans toutes les bonnes librairies et dans tous les kiosques. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, dans quelques secondes, on poursuit les archives d'Europe Soir avec de la littérature au programme ce soir. Je vous donne un indice. Bonjour Tristesse, à tout de suite.